Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine ! Vive la reine !
Bonjour, ici Lucie, vous écoutez l'AREN, l'émission d'information locale de Canal B qui s'apprête à commencer. Et au sommaire, l'info du jour, deux mobilisations ce jeudi à Rennes et dans la région. Interview de Corentin avec l'association d'entraide Repair 35 pour les jeunes de la protection de l'enfance. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage à figure, temps fort, art et petite enfance à vivre tout le week-end à Rennes. Et puis la recommandation du jour, les inscriptions sont ouvertes pour participer à un banquet de l'au-delà. Bienvenue dans l'arène. Tous les jours, l'émission d'information locale, elle commence avec une info du jour, repérée pour vous dans l'actualité locale. Et aujourd'hui, comme hier, deux mobilisations sociales, c'est le printemps. D'abord au lycée Bréquigny à Rennes, où des enseignants sont mobilisés, soutenus par des représentants de parents d'élèves et des élèves, afin de dénoncer le manque de moyens de l'établissement. En effet, à la rentrée prochaine, ce serait près de 90 heures d'enseignement par semaine en moins, trois suppressions de postes, avec des effectifs qui, eux, pourtant, ne bouge pas. Résultat, le nombre d'élèves par classe pourrait atteindre 35 à 36 élèves, des dédoublements de classe pourraient être supprimés et le nombre de places dans les sections artistiques pourrait être revu à la baisse. On rappelle que le lycée Bréquigny, c'est le lycée à l'indice de position sociale le plus faible à Rennes. L'IPS est un indicateur de mixité sociale. Alors comment ne pas en tenir compte lorsqu'on prétend bâtir une école pour toutes et tous? C'est la question posée par les enseignants mobilisés qui réclament davantage de moyens pour travailler, je cite, dans des conditions dignes et conduire nos élèves vers la réussite. L'autre mobilisation, elle concerne les trois lycées agricoles privés Saint-Exupéry qui sont implantés à Rennes, Vitré et La Guerche de Bretagne. Ils font partie du campus The Land qui rassemble depuis 2020 ces lycées, mais aussi 11 écoles supérieures privées, une résidence d'artistes et un incubateur d'entreprises à Rennes. S'ils sont en grève ce jeudi 21 mars, ces lycées, c'est pour dénoncer les orientations du directeur dont ils demandent la démission. En 10 ans, ces lycées, ils ont perdu 200 élèves. Le directeur défend lui un écosystème aux résultats florissants, c'est ce qu'on lit dans les colonnes de Ouest France. Je découvre par ailleurs sur France 3 Bretagne que plus globalement dans les lycées agricoles privés bretons, des enseignants contractuels dénoncent leurs conditions de travail. Ils sont pour certains non rémunérés depuis plusieurs mois, des profs qui dépendent du ministère de l'Agriculture et pour lesquels ce sont les lycées qui font des avances de salaire face à une administration qui galère à payer ses enseignants dans les temps. Allez, après ces infos du jour, interview menée par Corentin, notre volontaire en service civique.
Aujourd'hui, je suis avec Camille et Coralie pour présenter l'association Repair 35, une asso d'entraide pour personnes concernées par un parcours de protection de l'enfance. Repair 35 animera également l'atelier « Comment se construire avec un parent malade » dans le cadre du festival Nos Futurs qui se déroule ce week-end à Rennes. Bonjour Camille et Coralie.
Bonjour.
Donc vous êtes membre de l'association Repair 35, dont l'objectif c'est de créer de l'entraide entre des personnes ayant suivi un parcours de protection de l'enfance. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un parcours de protection de l'enfance ?
Oui, donc moi c'est Coralie, je suis coordinatrice de l'association Repair 35. Je suis partie aussi des membres fondateurs qui ont créé l'asso donc il y a un an maintenant. Une personne qui a eu un parcours en protection de l'enfance, c'est souvent un enfant mineur qui a entre du coup 0 et 18 ans et qui a connu en fait un parcours en famille d'accueil, qui a été placé en famille d'accueil ou en foyer. Il peut aussi avoir des mesures éducatives à la maison, au domicile. Souvent, en fait, ce sont des enfants qui sont placés pour diverses raisons. Ça peut être le fait qu'ils aient des parents qui ont été violents, donc il a vécu des violences infantiles ou si, par exemple, il a connu des violences conjugales. Mais ça peut être aussi avoir des parents qui ont des problèmes psychiques, donc qui ont des handicaps. Ça peut aussi avoir des parents qui ont des addictions. Les enfants qui ont été placés ne peuvent aussi ne pas avoir de parents du tout. Dans ces cas-là, ce sont plus des pupilles qu'on appelle les pupilles de l'État. Donc là, c'est l'État qui a l'autorité parentale. Et donc, pour certains d'entre eux, ils vont avoir une phase où ils vont être placés. Ça peut être de quelques mois à plusieurs années avant l'adoption. Parce qu'il y a des enfants qui ont été abandonnés. Ou alors, si une personne souhaite ne pas garder l'enfant, du coup, il y a forcément un moment, passage en protection de l'enfance, qui peut être de 2-3 mois à plusieurs années en fonction du cas.
Du coup, est-ce que le parcours de protection de l'enfance, c'est la même chose que l'aide sociale à l'enfance ?
Oui, en fait, au sein même de la protection de l'enfance, il existe plusieurs administrations et justement, il existe donc l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il y a plusieurs, on va dire, services. Soit ils sont placés souvent en foyer, donc dans des espaces collectifs avec d'autres enfants, soit ils vont être placés en famille d'accueil, donc auprès d'assistantes maternelles, et là avec d'autres enfants. Donc ça dépend vraiment des cas. Et pour certains, moi je pense surtout aux mineurs non accompagnés, donc les mineurs étrangers qui arrivent en France. Certains, donc soit ils sont placés en foyer famille d'accueil, et s'il n'y a pas de place, parce que c'est aussi la réalité, il y a de moins en moins de places, ils peuvent se retrouver dans des hôtels sociaux aussi.
Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où ça prend fin, genre à la majorité, ou est-ce qu'il y a des dates comme ça où en fait l'aide qui est apportée, elle s'arrête ?
Oui. En moyenne, elle s'arrête, l'accompagnement s'arrête autour des 19 ans. En fait, la moyenne en France, c'est 19 ans. Donc, c'est la fin du contrat qu'on appelle APJM, donc contrat jeune majeur. Elle peut être brutale dans certains départements. Ça dépend, en fait, de l'ambiance politique. Si le département souhaite accompagner politiquement les enfants placés jusqu'aux 21 ans, qui est la loi, certains départements vont mettre en place des actions pour... que ça puisse effectivement être le cas pour certains. Mais parfois, pour certains, l'accompagnement peut s'arrêter aux 18 ans, donc à la majorité. Et là, ça va être, on va dire, pour beaucoup d'enfants, de jeunes majeurs, un peu problématique, parce qu'on appelle ça les sorties sèches. Et pour certains d'entre eux, ils vont pouvoir se retrouver qu'à la rue, en fait. Et donc, il y a une partie, en fait, des enfants placés. Donc, c'est un SDF sur 4 qui a eu un placement en protection de l'enfance qui peut se retrouver à la rue.
Du coup, l'association Repère, c'est une association qui permet à des personnes ayant suivi ce genre de parcours de se rencontrer, de s'entraider, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Parce que du coup, quels sont les problèmes un peu communs qui existent chez ces personnes ? Enfin, de quoi ils ont besoin ?
En général, c'est des personnes en fait qui ont quand même un parcours de vie assez compliqué, assez complexe de par leur vécu. Certaines ont vécu des violences, d'autres ont plutôt justement eu un parcours positif, parce que l'aide sociale à l'enfance, c'est pas que négatif. Il y en a certains qui ont développé vraiment des liens très chouettes avec leur famille d'accueil, leurs éducateurs. Et le but, c'est de se retrouver en fait entre nous et de libérer la parole aussi autour de ces vécus-là, parce que souvent, on n'ose pas en parler, en fait. C'est quelque chose qu'on cache.
Et quand on en parle, il y a aussi une certaine gêne en face. Enfin, nous, en tout cas, en tant qu'enfant placé, on perçoit le changement de regard. Et c'est le moment où on se dit, j'aurais peut-être dû me taire, du coup. Donc, vraiment, Repère, ça permet de libérer la parole. Pour nous-mêmes, ça nous fait du bien. Et en fait, la personne en face, elle comprend totalement ce qu'on dit, parce que soit elle le connaît, soit elle connaît quelqu'un qui l'a vécu dans sa famille d'accueil ou dans son foyer. Donc, ça fait vraiment du bien d'avoir cet espace-là, quoi.
Du coup, qu'est-ce qui est organisé concrètement au sein de l'association ?
Alors, une fois par mois, on se retrouve, donc c'est notre action Les Pieds dans le Plat. Donc, on se retrouve chaque premier mercredi du mois. Notez dans vos agendas à 18h. Pour l'instant, le lieu en ce moment, c'est La Cavale, un bar très chouette à Rennes. Mais ça peut toujours changer. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Donc, ça, c'est notre rendez-vous mensuel. Mais il peut arriver qu'on intègre différents projets. Là, par exemple, il y a Camille qui sera sur nos futurs. Mais il y a aussi, on participe à un ciné-débat le 24 avril à 20h15 au Ciné Arvor. Donc voilà, on essaie d'intégrer plusieurs projets qui ont un lien avec la protection de l'enfance. On essaie de vraiment que les bénévoles qui sont actifs puissent libérer la parole autour de ça. Donc voilà, et on essaie aussi de pouvoir apporter aussi un accompagnement plus individuel à notamment plus aux jeunes majeurs qui effectivement en fait vivent un peu tout ce chamboulement avant et après les 18 ans. Parfois en fait ils se retrouvent un peu seuls, entourés de leurs éducs, parce que pour certains ils n'ont plus de famille sur qui compter. Donc on essaie vraiment de créer des espaces où se retrouver pour créer du lien entre nous. On a une autre action, c'est d'intervenir en fait auprès des écoles de travailleurs sociaux, donc éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs et assistantes sociales. Il y a vraiment une volonté, on va dire, globalement en France, mais dans certains territoires, de vraiment construire avec les personnes concernées, de plus en plus sur toutes les thématiques, soit le handicap, migration et autres. Et dans le champ de la protection de l'enfance, ça évolue énormément dans ce sens-là. Et on intervient régulièrement en fait auprès des travailleurs sociaux pour justement parler de nos témoignages, mais pas que, parce que le but, c'est pas non plus de faire pleurer dans les chaumières, c'est vraiment d'apporter des fois des éléments très concrets à des situations que peuvent vivre en fait les travailleurs sociaux à des endroits, et pouvoir en fait leur apporter un autre regard en fait. Parfois, c'est vrai que pour avoir travaillé aussi dans le médico-social, on est un peu dans la tête dans le guidon, on sait pas trop quelle solution apporter à l'enfant, et en fait, parfois, il suffit juste de poser la question à l'enfant et il a souvent la réponse.
C'est plutôt sous forme d'ateliers publics que vous organisez des choses, des moments d'échange. Et est-ce que ces ateliers, ils sont ouverts aux personnes qui ne sont pas forcément concernées?
Oui, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Nous, en fait, notre association, il y a vraiment une essence de père aidance, c'est-à-dire qu'on a cette volonté de se dire que ce n'est pas parce qu'on a eu, on a vécu des souffrances ou que c'était compliqué à des moments de notre vie que forcément on est larisé, enfin, on ne veut pas se placer en tant que victime, on est plus dans quelque chose d'empouvoirant. Donc vraiment, c'est ouvert à tous et à toutes. Après, le but, c'est vraiment de faire émerger la parole des personnes concernées. On est totalement ouvert aux alliés. Souvent, les personnes qui viennent en tant que bénévoles, c'est des personnes qui sont touchées. Par exemple, on a une bénévole, son petit-fils est placé, du coup, elle a la garde de temps en temps. Ça peut être des éducateurs, des assistants sociaux, ou des gens qui sont juste touchés par la cause. Enfin, vraiment, on est très ouvert à tous et à toutes. Donc les personnes peuvent nous rejoindre, il n'y a pas de souci.
Comment on peut agir en tant que bénévole à Repère 35?
Déjà, il ne faut pas hésiter à s'informer. C'est très important sur le milieu de la protection de l'enfance. Regarder des films, des documentaires sur le sujet. Et à nous poser des questions directement, à venir nous voir, nous rencontrer. On ne mange pas, on ne mord pas. Et ce qu'expliquait Camille, c'est qu'il ne faut pas hésiter en fait, à nous poser des questions. On vous dira en fait, si ça nous gêne ou si ça nous met mal à l'aise. Mais en tout cas, voilà, on sait que des fois, quand on en parle, il y a toute une atmosphère un petit peu mystérieuse, une genre de boîte de Pandore autour de ça. Mais il ne faut pas hésiter, voilà, à poser des questions si vous sentez que la personne est à l'aise. Nous, on est là pour ça. Et si vous nous aider, il ne faut pas hésiter à adhérer à l'association. On n'a pas encore de site internet, mais on a un Instagram.
Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de personnes qui sont concernées par ces aides sociales à l'enfance?
Là, moi, je ne les ai pas, j'avoue. Je n'ai pas les chiffres en tête, parce qu'il n'y a pas d'études très récentes sur le département.
Surtout que c'est des études qui peuvent être très longues et très denses, parce que bah, c'est hyper compliqué d'avoir ce genre de chiffres. Et je crois que la dernière étude date d'il y a 4 ans, donc c'est vraiment... Enfin, c'est daté, quoi. Enfin, les chiffres ne sont pas du tout d'actualité, et les mesures ne font qu'augmenter, donc...
On a des chiffres sur le plan plus national, où en 2007, c'était une étude sur les jeunes, justement, et 40% des moins de 25 ans, donc des jeunes... qui sont SDF, 40% d'entre eux avaient eu un parcours en protection de l'enfance, donc c'est presque un jeune sur deux en fait.
C'est déjà parlant comme...
Oui, déjà, oui.
On l'a dit en début d'entretien, ce week-end à Rennes se déroule le festival Nos Futurs. Ce sera du 21 au 24 mars au Champ Libre. C'est un festival regroupant différentes rencontres, ateliers, animations sur de nombreuses thématiques relatives à la jeunesse. Et à cette occasion, il y aura un atelier organisé par Repère 35, vendredi 22 mars à 17h30. Ça va être quoi cet atelier?
Ça va être du coup un temps d'échange où on sera trois, donc moi-même qui animera le temps. J'ai Marine Labbé qui est une psychologue en protection de l'enfance, donc qui va pouvoir apporter un peu son expertise. Et on a Ambrosia qui est une jeune qui a 20 ans et qui a elle-même été placée et qui du coup va venir aussi apporter son regard, parce que le sujet c'est comment se construire avec un parent malade. Cette thématique elle n'a pas été choisie au hasard parce que l'idée en fait quand on nous a fait la commande c'était de pouvoir présenter un projet qui soit en lien avec notre association mais qui puisse aussi parler au plus grand public. Et c'est vrai que nous, au sein de Repères, dans le bureau ou dans les membres du CA, il y a beaucoup de personnes avec au moins un parent malade ou les deux. Et c'est une thématique qu'on retrouve en fait dans beaucoup de parcours en protection de l'enfance. Mais pour autant, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un parcours en protection de l'enfance pour connaître un parent malade.
Est-ce que du coup, c'est quelque chose de récurrent chez les personnes qui sont placées, la maladie du parent ? Parce que moi, c'est vrai que sur le coup, en voyant le thème, j'avais l'impression que ce n'était pas le thème principal du champ d'action de votre association.
J'avais la volonté de ne pas forcément m'axer beaucoup sur Repère. Enfin, c'est important, je le fais. Ils m'ont fait confiance là-dessus pour proposer ce sujet. Mais l'idée, c'était de pouvoir apporter, je pense, un autre aspect de la protection de l'enfance qui puisse aussi parler au plus grand public et, en disant que on n'est pas un groupe à part dans la société. C'est vraiment, nous, cette truc-là, elle nous a touchés. Mais ça peut aussi vous toucher, vous. Parce que moi-même j'ai des parents malades et du coup ça a entraîné un placement. Mais il y a d'autres parents qui sont malades et qui sont pour autant très bien accompagnés et dont leurs enfants n'ont pas forcément besoin d'un placement. Mais je pense que dans les questions que je vais pouvoir poser, ça pourra parler à beaucoup de personnes qui seront présentes dans la salle à mon avis.
Donc c'est une des raisons qui peut entraîner un placement quand même, la maladie des parents.
C'est ça, ouais. Après, c'est la maladie qui vient entraîner tout un tas d'autres problèmes en soi, mais c'est vrai que c'est vraiment le cœur du... Enfin, en tout cas, dans mon cas, ça a été vraiment le cœur du placement.
Du coup, il va prendre quelle forme ? Ce sera plutôt une table ronde, questions-réponses ?
Alors, ça sera un temps d'échange. Donc, moi, je vais venir poser 3-4 questions à mes deux invités. Et il y aura à la fin 15 minutes d'échange avec le public s'ils veulent poser de nouvelles questions ou venir approfondir certains points qui ont été évoqués.
Sur le lieu, c'est au champ libre. C'est dans les champs libres.
Oui, c'est ça. Donc, ça se passe à l'espace citoyen. Okay. Donc, on rentre dans les champs libres, on prend l'escalier et on va arriver dans un espace un peu ovale bleu. Une sorte de semi-étage et ça va être là, il y a une espèce d'espace vitré et c'est vraiment, vraiment là. Mais il y aura des bénévoles aussi pour guider toutes les personnes qui souhaitent venir.
L'atelier Comment se construire avec un parent malade, ça se passe le 22 mars à 17h30 au Champ Libre et c'est animé par Repère 35, l'association dont font partie Camille et Coralie qui étaient présentes avec moi aujourd'hui. Merci à vous deux.
Merci à toi.
Thank you.
Maman est folle, une reprise d'un morceau de William Scheller par Laura Cahen, un titre que vous retrouverez avec d'autres sur l'album Simplement Scheller, ce qui est sorti à l'automne 2023. Vous venez d'en entendre un extrait dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Vous êtes, je pense, branché sur le 94.0 pour nous écouter, mais sachez que vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur canalb.fr, un site où normalement sont bien rangés les podcasts des émissions réalisées par des salariés, mais aussi par les bénévoles, puisqu'on est une radio associative. Allez, on poursuit l'émission avec un reportage. Et je vous emmène découvrir Figure, le temps fort, art et petite enfance proposé par le labo de l'association Lilico. Figure, c'est un grand terrain de jeu artistique pensé pour les tout-petits et à découvrir depuis le 20 et jusqu'au 24 mars à la salle Guy Ropartz à Rennes. Le détail et les places, il en reste très peu je crois. C'est à retrouver en ligne sur le site lilicojeunepublic.fr.
Regardez ici, regardez ici. Touche, appuie dessus. Voilà, les deux mains c'est plus facile. Il y a de la place pour tout le monde.
Alors Figure, c'est un temps fort dédié à l'art et à la petite enfance. Donc, c'est un temps fort qui a été pensé avec les artistes du labo. Et Lilico se transforme en lieu d'expérience artistique. C'est une forme de musée, une forme muséale où on peut chacun trouver son propre chemin, suivre les petits pas et découvrir les œuvres qui ont été spécialement pensées pour les tout-petits. Alors moi je suis Géraldine et je suis responsable de l'information et de la communication.
Il faut s'allonger.
Ça donne envie.
Qu'est-ce que vous voyez les enfants? Il y a un bonhomme là. Je crois qu'il y a un poisson aussi.
Waouh.
Une baigneuse, un poisson, un hippocampe projeté sur les murs d'une pièce sombre et qui tourne autour des enfants qui sont allongés par terre dans des coussins.
Alors le labo, il est constitué effectivement de plusieurs artistes. Certains sont là depuis longtemps, d'autres sont arrivés plus récemment. C'est un espace où l'on s'est permis de penser, de repenser l'accueil pour les tout-petits, les œuvres pour les tout-petits. Un espace où on a pensé à la liberté de circulation et toute la notion aussi de vibration, la vibration interne, externe qui nous a porté pendant toutes ces années.
Pour que les auditeurs comprennent bien, donc quand on arrive à la salle Guy Ropartz, c'est vraiment un parcours qui a été imaginé où on suit des petits nuages et qui nous emmène vraiment d'une installation et d'un espace à l'autre. Comment a été pensé ce parcours?
Alors on l'a pensé au fur et à mesure des années. Là cette année, évidemment on est parti des œuvres artistiques qui ont été créées. Et en fonction des endroits où les artistes avaient envie de mettre leurs œuvres, nous, avec l'équipe, on a repensé effectivement toute la circulation en recoupant avec un travail de lumière et un excellent travail technique tout cet espace du plateau et dans lequel aujourd'hui on va retrouver trois endroits où on va pouvoir tranquillement découvrir toutes ces œuvres. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. On a repensé toute cette circulation et cette salle a une toute autre forme en fait. Quand on arrive ici dans ce lieu d'expérience artistique, c'est vrai qu'on peut être un petit peu surpris parce qu'on, même nous-mêmes, chaque année, on la reconnaît plus, quoi. Alors, on commence d'abord la visite par le hall, donc on est accueilli. Puis ensuite, il y a ces trous des sourires qui va nous permettre de découvrir un sourire qui va nous accompagner tout le long du parcours. Et ensuite, dans le hall, on a donc deux formes qui sont installées.
Et c'est là qu'on retrouve des albums jeunesse de la chuchoterie, un espace pour les 0-6 ans. Et ce fonds, il compte aujourd'hui plus de 600 ouvrages, dont 200 livres d'artistes.
Et ensuite, le public peut circuler comme il le souhaite dans les différents espaces. Soit on va vers un autre espace qui est le studio où là on est sur une forme d'hésitation et de liberté.
Alors là, il faut imaginer un carré blanc au sol et au plafond plein de fils et de rubans qui descendent, des pompons aussi. Donc il y a plusieurs enfants qui sont en train de danser, d'essayer d'attraper les pompons.
et ensuite on peut retourner vers le plateau pour découvrir tous ces paysages rêveries et ces boîtes surprises qui ont été imaginées par les artistes.
On l'ouvre, la porte, tout doucement. Oh, on ferme. Et ça marche.
Là, il faut s'imaginer un village miniature avec des maisons, des montagnes, des arbres, en carton, en papier mâché, en bois. Et sur certaines des maisons, il y a des indications. Ici, c'est écrit gratter, à côté tapoter.
Alors, la partie qu'on a surprise paysage, c'est vraiment collectif. Donc moi, j'ai apporté des choses, comme tout le monde, en fait. On a chacun apporté des choses personnelles. On a tiré un peu des mots au sort, et là, c'était surprise et paysage. Et donc on s'est dit, voilà, on va créer une espèce de petit paysage sur le plateau, mais qui va tout le temps être en mouvement.
Oui, parce qu'il a déjà pas mal bougé là depuis ce matin.
Il n'arrête pas. Alors mon nom, c'est facile, c'est Benoît Sika. Fonction, c'est déjà plus difficile, parce que moi je suis plasticien de formation, mais je fais aussi plein de choses différentes. Donc j'utilise des médias, des objets, des formes, des constructions très différentes selon les projets. Donc ça va des projets d'exposition classiques, on va dire, à des formes plus performatives et des spectacles plus dans le sens classique. Et j'explore beaucoup aussi au niveau du son, de plus en plus. Alors moi, le très jeune public, c'est un public avec lequel je travaille depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé dans mon milieu professionnel avec des enfants plutôt maternels. Et puis à un moment donné, on m'a demandé si je pouvais faire des choses pour des plus petits. J'avais jamais fait, mais j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai trouvé ça passionnant de voir comment ça modifiait ma façon de travailler, en fait.
Ça change quoi ?
Eh ben, ils font pas ce qu'on attend d'eux. Donc avec l'expérience, on arrive à deviner des choses. Mais moi, j'aime dire qu'ils sont les champions du détournement d'objets, de choses, de règles du jeu. Et ils sont aussi les champions de l'improvisation. Donc ils ont une capacité à s'approprier les choses qu'on leur propose, mais d'en faire autre chose systématiquement.
Ce qui peut être perturbant pour un artiste.
Alors c'est très perturbant et en même temps c'est très inventif. Moi j'ai beaucoup pratiqué l'improvisation libre. Et là, eux, c'est des maîtres. Donc ça donne plein d'idées. C'est perturbant dans le sens où, oui, effectivement, on se dit tiens, j'essaye un truc et ça marche pas. Mais en réalité, ils proposent presque systématiquement autre chose.
Donc, faire quelque chose de très beau et les enfants arrivent et retournent.
Exactement. Alors moi, mon premier spectacle, c'était le Jardin du Possible, pour les tout-petits. Et effectivement, j'avais tendance, moi, à toujours vouloir construire des jolies choses. Et eux, le plaisir de la destruction fait partie du jeu. Et ça, je le savais, mais à la dimension d'un plateau, ça peut partir dans plein de directions. Et c'est là que j'ai découvert aussi qu'ils s'intéressaient beaucoup à la dimension sonore. Quand par exemple ils se mettaient à étaler des graviers sur le plateau, les instituts me disaient mais qu'est-ce qu'on fait, ils sont en train de faire n'importe quoi, est-ce qu'on intervient et tout. Et moi je me suis rendu compte qu'ils faisaient pas n'importe quoi du tout, ils étaient en train de faire du son. Et notamment ça fait le bruit de l'orage ou des vagues sur la plage. Enfin, et là du coup je me suis mis à faire du son avec eux, à la base avec des matériaux, voilà, du bois, des cailloux, des graviers. Et de fil en aiguille je me suis mis à fabriquer des instruments un peu plus élaborés. Mais je trouve ça hyper intéressant comment ils s'approprient tout et comment ils ont... On dit, nous, dans le jargon un peu de la petite enfance, on dit qu'ils ne discriminent pas. C'est-à-dire, chez eux, il n'y a pas les trucs beaux, les trucs pas beaux. C'est-à-dire que même des sons un peu couinants, grinçants, ça les intéresse.
Est-ce qu'on peut présenter, je sais pas si on a plusieurs, mais s'arrêter sur une installation sur laquelle vous avez planché là ?
Alors il y a celle-là qui est une petite maquette au 1/10 de racines carrées. Et racines carrées, pour la décrire simplement, c'est des baguettes de bois assez fines qui sont donc manipulables par les enfants et les adultes et des connexions en tuyaux d'arrosage. Et donc c'est hyper intuitif. Les connexions, c'est soit des étoiles à 4 branches ou à 6 branches, parfois à 8. Il y a des creux, il y a des pleins, donc les enfants, même en crèche, ont instinctivement la notion de l'emboîtement. Et en même temps, les tuyaux d'arrosage sont un peu souples, les connexions sont mobiles, donc tous les angles sont possibles et imaginables.
Et donc il y a des petites cartes avec des exemples de modèles.
Il y a des idées qui ne sont pas forcément reproductibles. Celle-ci est facile à faire, par exemple, et puis d'autres ne vont pas forcément être aussi simples. Mais c'est plus pour donner des pistes. Après, voilà, il y a plein d'autres choses à voir. Il y a une pièce qui est dehors, qui est une harpe éolienne. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais ils en annoncent ce week-end. Donc à mon avis, elle va chanter. Et c'est une harpe dans laquelle les enfants peuvent s'installer. Ça supporte aussi le poids d'un adulte. Généralement, les adultes ont un peu plus de réticence à y aller. Et pour décrire la harpe éolienne, c'est un instrument qui, comme son nom l'indique, fonctionne avec le vent. Mais qui ne fait pas du tout le même son si on joue des cordes avec les doigts. Il y a un étonnement quand le son arrive.
Vas-y. Ouais. Ah, mais ouais, on voit quelque chose, trop bien.
Là, je suis à côté de 3-4 enfants qui courent partout avec des lampes de poche qui sont pensées pour éclairer notamment une cabane faite de carton et de sacs poubelles. Il y a plein de choses à découvrir avec les lampes de poche. Je suis entourée.
Eh ben, moi, je suis Fanny Bouffort et je suis artiste, membre du labo Figure, donc, qui a été initié par l'Hélico il y a quelques années maintenant. Et donc, on est plusieurs artistes à avoir rejoint ce labo de recherche où on travaille ensemble, on réfléchit, on expérimente des choses pour questionner la relation des tout-petits aux œuvres d'art. Moi, personnellement, je travaille en théâtre et je fais... spécifiquement, j'aime bien le théâtre d'objets. Du coup, j'aime bien travailler sur les rapports d'échelle différents entre les acteurs, le public et puis l'image qu'on construit sur le plateau. Et donc, tout l'intérêt là, de travailler avec la petite enfance, c'est qu'ils sont à une autre échelle que les adultes. Et du coup, on peut vraiment travailler sur plein d'échelles différentes avec ce public-là. Ils peuvent être des géants dans un paysage miniature, ils peuvent être des joueurs aussi. Enfin, les propositions elles tournent souvent autour du jeu, de comment les enfants peuvent être eux-mêmes acteurs en fait, des installations, des propositions artistiques.
Est-ce qu'on peut en présenter une installation sur laquelle vous avez travaillé ?
Ouais, ben moi j'ai travaillé sur Déplacer les montagnes, qui est un projet qui est encore en expérimentation, qui n'en finit pas de s'expérimenter avec le public. Et du coup qui évolue au fur et à mesure. En fait, c'est un assemblage de pièces de bois que j'ai construites, façonnées en m'inspirant d'un langage qui s'appelle les runes et qui du coup représente un peu comme les idéogrammes japonais. Chaque figure en fait représente un concept, une idée, une chose de la vie en fait. Et du coup, en assemblant ces différentes formes, on crée une histoire. Donc souvent les histoires elles restent secrètes parce que les tout petits parlent pas forcément, expriment pas forcément ce qu'ils ont en tête ou tout leur imaginaire, mais c'est ça qui m'intéressait justement par rapport à ce travail avec des objets qui représentent des choses où on peut jouer avec, on peut interpréter en fait tout ce qu'on veut avec ces figurines-là.
Matériellement, on peut la décrire cette installation ?
Ouais, donc c'est un certain nombre de pièces de bois qui ont des formes assez géométriques, qui s'imbriquent les unes dans les autres.
Comme un Tetris, un peu.
Ouais, un petit peu, c'est vrai que ça ressemble un peu à des formes Tetris. Et il y a aussi des tissus, qui du coup apportent d'autres supports de couleurs. Et puis, il y a un livre, qui est le lexique, un peu le glossaire de... les formes sont représentées, elles sont brodées sur ce livre et il y a une des significations que pourrait représenter cette forme. Donc, par exemple, il y a une forme un peu triangulaire qui représente la torche, une autre forme un peu plus rectangulaire qui représente un cheval, la maternité, l'humanité, enfin voilà, c'est plein de notions comme ça qui sont du coup explicitées dans ce petit runabok.
Ce que je trouve quand même assez amusant, c'est la façon dont les enfants se saisissent des installations et peuvent pas parfois contourner, je sais pas, aller s'intéresser aux portes, aux rideaux.
Ouais, ouais, bah c'est un public qui est assez imprévisible et en même temps, nous, ce sur quoi on travaille, c'est à des règles du jeu implicites, des choses qui sont instinctives et qui sont pas forcément écrites sur une feuille de salle. Et voilà, après, on réfléchit à l'imprévu, à ce qui peut se passer qui n'était pas prévu, mais dans un cadre OK, en fait, où tout peut se passer, en fait.
Si vous voulez, là, il y a un grand lit. Avec un gros, gros coussin.
Là, on est dans un espace plutôt lecture avec des gros coussins, des lits et des albums jeunesse qui se cachent dans des oreillers. C'est quoi ces trois nouvelles empreintes ?
Alors, les trois nouvelles empreintes, c'est celles qui sont au plateau. Et donc, elles ont été imaginées par Cyril et Laura de la compagnie L'Unanime, Justine Curatolo et Colin Irwin. Donc, ce sont trois nouveaux mobiliers d'art qui accueillent des livres de notre fonds documentaire de la Juchoterie. Et ces mobiliers d'art sont dédiés souvent à être mis dans des espaces, plutôt des centres sociaux ou des crèches. Enfin, en tout cas, ils sont très mobiles, très légers, très faciles à transporter. Et voilà, on les installe dans les lieux de vie petite enfance.
Alors, je les ai sous les yeux, ces mobiliers d'art nomade dédiés aux livres d'artistes. L'un plutôt en feutre, avec deux sièges, on va dire, pour s'installer et donc lire des albums. Le deuxième, juste à côté, un mobilier qui est plutôt en forme d'étoile et on peut s'installer presque entre les pages de ce meuble et avec des albums qui sont posés sur ses faces. Il reste seulement quelques places, hein, c'est ça, pour ce week-end ?
Oui, il reste des places samedi après-midi et puis dimanche, quelques places, oui.
Mais ça veut dire que l'événement a trouvé son public, parce que souvent, il faut anticiper pour venir à figure.
Ouais, en fait, la jauge est toute petite. On accueille entre 60 et 70 spectateurs par matinée ou par après-midi. Donc, c'est pour ça que ça peut effectivement être rempli assez vite. Ouais.
Ça fait quoi, docteur ?
C'est un micro, j'enregistre des sons.
C'est quoi ?
Des sons de toi.
Amina, tu viens ? Oui, c'est bon. Allez, comme ça.
Alors, je m'appelle Lucette, je suis à Thiem, en école maternelle de Haut-Grantel.
Donc, vous êtes là avec un groupe d'enfants de l'école ?
Oui.
Et moi, du coup, je m'appelle Mélissa et je suis la maman d'un des élèves, Sohan.
Ok. Qu'est-ce que vous avez vu pour l'instant ? Vous avez passé pas mal de temps ici, dans l'espace de fête, là. Vous êtes surtout venu ici ?
Oui, je suis venue ici. Nous, c'était essentiel de nous amuser. Et puis, vu que j'ai vu le décor, c'était waouh ! Et puis, les enfants, ils ont aimé le décor. Ils ont vu, il y a des couleurs, il y a des...
Beaucoup de matière à toucher.
Voilà. Des coussins, puis aussi de crayons aussi, comme si on était à la fête, à la plage... de jouer avec les serpents.
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait, et du coup, bah, c'est bien pour eux. Peut-être, en tant que parent, est-ce que vous en connaissez beaucoup, des lieux comme ça, où les enfants sont libres de pouvoir bouger, toucher ?
À Rennes, c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités comme ça, festivals, tout ça pour les enfants, où il y a des espaces comme ça pour eux, c'est vraiment bien. Après, moi, j'étais déjà venue à la salle Guéropars, mais... ici, c'était l'espace chuchoterie, en fait. Et du coup, là, c'était vraiment plus sombre, les livres, tout ça. Mais là, non, c'est vraiment bien. Ils peuvent bouger, vaquer librement.
C'est la première fois que vous venez au Festival Figure ou vous êtes...
Oui, c'est la première fois, moi.
Moi, c'est la première fois.
Vous vous amusez presque autant que les enfants, non ?
Moi, je suis quelqu'un... Comment dire ? Je suis une adulte, mais je deviens un enfant, carrément. Dès que je bosse avec les enfants, je fais la folle, et puis on s'amuse bien, et puis ils passent un beau moment, et puis voilà.
Et ils font une sieste cet après-midi, ces enfants-là ?
Oui, oui.
Ça va bien les fatiguer, là ?
Oui, j'espère.
On en voit déjà qu'ils dorment.
J'espère.
Thank you.
Avec le morceau Don't Disappear sur Canal B, c'était une nouveauté musicale, un titre qui a été repéré par Yann Barbotin, notre programmateur musical, et qui est extrait d'un album Untame the Tiger. C'est sorti le 23 février. Un 9 titres qui forme le 4e disque en solo pour Marie Timoni, une chanteuse, compositrice et guitariste américaine qu'on a découverte dans différentes formations au fil de ses 30 ans de carrière. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'arène. La recommandation du jour, vous le savez, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre dans la région rennaise, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire. Là, on met en lumière une proposition d'atelier. C'est la coopérative funéraire de Rennes qui prépare en fait son festival de la mort qui aura lieu du 20 au 22 septembre. En vue d'un grand banquet, 3 ateliers vont être organisés pour le grand public. 20 participants sont recherchés. Sur 3 week-ends en avril, juin et août, vous avez l'occasion de devenir un passeur d'histoire en embrassant le rôle d'un défunt, rôle que vous tiendrez auprès des 200 convives du grand banquet du Festival de la Mort du 20 au 22 septembre. Alors si vous aimez la cuisine, l'écriture, les rencontres et le jeu, ces ateliers n'attendent que vous. Les tarifs vont de 40 à 120 euros pour l'ensemble de la participation. Et pour plus d'infos, il y a le site lacopfunéraire-de-rennes.fr. On se dirige vers la fin de l'émission d'information locale, mais avant de se quitter, la chronique de la CIMADE. Marion, bonjour.
Bonjour.
Je te présente, tu es intervenante juridique pour la CIMADE, cette association de soutien aux personnes exilées qui intervient au centre de rétention administrative de Rennes. Toutes les 2 semaines, vous nous donnez à voir ce qui se passe entre les murs de ce centre de rétention. Aujourd'hui, avec un témoignage.
Je m'appelle Amir, je suis arrivée en France en 2017. J'étais à Lille dans un foyer. J'avais 15 ans. Après, j'ai été transférée dans un autre foyer au Mans. Je suis rentrée à l'école, j'ai eu un CFA restauration. À mes 18 ans, je suis sortie du foyer. En fait, ils m'ont virée. Le foyer a fait une demande de titre de séjour, mais elle a été refusée. On m'a donné un kit. Un kit, c'est une obligation de quitter le territoire français. Du coup, j'étais à la rue, je pouvais rien faire, pas de démarche, rien du tout. Je n'avais pas d'appartement, j'avais rien, j'avais personne. En 2021, j'ai rencontré quelqu'un. C'est la mère de la petite. On vit ensemble maintenant. Elle est tombée enceinte de moi. À 4 mois de grossesse, je suis tombée en prison. J'ai fait une peine de 6 mois. Quand je suis sortie, on m'a ramenée ici, au CRA de Rennes. Le bébé est né quand j'étais enfermée. 15 jours après, je suis sortie. Mais j'ai quand même vu ma fille pour la première fois en vidéo dans le bureau du CRA. Je suis sortie, j'ai fait mes démarches. J'ai fait une demande de titre de séjour parent-enfant français. La préfecture m'a donné une liste de papiers. Il y avait la pièce d'identité de la petite, mais je ne l'avais pas. On est allé à la mairie pour faire le passeport, mais ils m'ont dit que la préfecture bloquait. Je sais pas pour quelle raison. Ça fait 7 mois qu'on attend la pièce d'identité. 7 mois. J'étais comme ça jusqu'à ce qu'on me contrôle dans la rue un jour. Et ils m'ont ramené ici encore, au CRA. Ils m'ont redonné une nouvelle OQTF. Ce que je comprends pas, c'est que je devais pas aller en garde à vue. J'avais rien fait. Je retirais de l'argent au distributeur. Ils m'ont gardé une nuit là-bas, j'ai pas compris. J'ai demandé à voir mon avocate. Les policiers arrêtaient pas de dire qu'elle était occupée, qu'elle répondait pas. Mais en vrai, ils l'ont pas appelée, c'est fait exprès. Après, je suis arrivée encore au CRA de Rennes. Même l'avocate me l'a dit, personne ne l'a appelée. Là, je suis ici. Voilà, je suis ici. C'est terrible. Ils m'ont enfermée ici alors que j'ai une fille. Je la vois même pas. Il y a des bâtiments, deux personnes par chambre. En vrai, c'est sale, mais on a quand même des draps propres. Les toilettes, la douche, c'est éclaté. La bouffe, ça se mange même pas en vrai. Des fois, on mange pas de la journée. Des fois, on mange que des gâteaux. À l'intérieur, je me sens comme si j'étais un animal. Il y a pas de respect. Même les keufs, ils te parlent mal. Même pas, ils disent bonjour. Pas tous, hein, y en a qui sont bien. Ça va, on tient le coup. On n'a pas le choix. Là, j'ai passé mes jours comme ça, jusqu'à ce qu'un matin, les policiers sont arrivés. Ils m'ont menottée alors que j'étais encore au lit. J'ai pas pu mettre mes vêtements tranquilles. Je leur ai dit, laissez-moi m'habiller, puis mettez-moi les menottes, je viendrai avec vous, y a pas de problème. Je me suis habillée dans la cour. J'ai mis mes baskets dans la voiture. Je suis allée en chaussettes jusqu'à la voiture. Ils m'ont ramenée comme un chien. C'est pas bien ce qu'on m'a fait. Dans la voiture, j'ai demandé mon petit téléphone pour appeler mon avocate. J'ai pu appeler vite fait, puis ils ont repris le téléphone. J'ai pas pu appeler ma femme. Il y a un policier, il m'a fait mal. Il m'a dit, même s'il y a quelqu'un devant l'avion, je vais te faire monter et je descendrai avec toi jusqu'en Algérie. Ça changera rien si tu passes des appels. Tu vas aller au bled. On est arrivé à Paris. Les policiers sont allés à la boulangerie acheter un sandwich. J'ai négocié et ils en ont quand même ramené un sandwich. Bon, c'est quand même moi qui ai payé. J'avais pas mangé depuis la veille. Puis, quelqu'un les a appelés et leur a dit de rentrer au centre. Là, j'étais trop content. L'avocate m'avait dit, au téléphone, ils n'ont pas le droit de te ramener puisqu'il y a un jugement en cours. Ça, c'est la vérité.
Amir a finalement été expulsé quelques temps après avoir témoigné. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.